Bienvenue au Polysécur, épisode spécial Sécur. Je suis avec Vincent Millet. Est-ce que tu peux te présenter brièvement?
Bien sûr. Donc, Vincent Millet, gestionnaire en risque cyber et membre du conseil d'administration de ISACA Montréal.
C'est ça. Tu es venu au Sécur pour venir discuter de la méthodologie FAIR, qui est une analyse de risque, qui est une méthode, à mon sens, structurée, que j'aime beaucoup. Fait que je suis très biaisé positivement face à cette méthodologie-là. Fait que si ça se ressent dans les questions, dans les lignes des questions, étonnez-vous pas. Je vais te laisser commencer par qu'est-ce que FAIR?
FAIR, c'est une méthode d'analyse. Donc, c'est pas un cadre de risque, c'est vraiment une méthode d'analyse de risque qui permet de quantifier en termes de dollars les risques reliés à, je vais dire, aux technologies.
Et c'est ça, c'est quoi la différence justement? Tu mentionnais dans ta conférence un framework puis une méthode, parce qu'il y a quand même une distinction entre les gens. Je pense que les gens mélangent un peu les deux.
Oui, c'est ça. OK. Bien, en fait, un cadre de risque, de gestion de risque, va exiger, dans le fond, un peu comme le plan do check act. Il va te demander d'identifier tes risques, d'analyser tes risques, de surveiller tes risques. Donc, c'est le fameux cycle de vie d'un risque. Donc, ça, c'est le cadre, c'est la gouvernance, c'est le processus. OK? À l'intérieur de ce processus-là, il y a la case d'analyse de risque qui mérite ou exige une méthodologie en soi qui aujourd'hui, la plupart du temps, en TI ou en technologie, on utilise les fameux heat maps là, pour représenter le likelihood, la probabilité et l'impact des risques. Tandis que FAIR va utiliser, dans le fond, une méthode quantitative avec plusieurs facteurs pour représenter les risques et les documenter.
Oui, puis de toute façon, tu parles des heatmaps, je trouve ça excessivement détestable personnellement, l'usage de ces choses-là, parce que ça veut rien dire. Je peux rien faire avec cette information-là. Et j'ai encore beaucoup plus de difficultés à communiquer à un gestionnaire quand j'arrive, ouais, c'est jaune. Et le gestionnaire va me demander, qu'est-ce que je fais avec du jaune? Ben, j'ai aucune idée, c'est juste du jaune. Fait que c'est très difficile de mesurer, puis justement de guider les gestionnaires avec cette approche-là.
Effectivement, tu peux pas, non seulement c'est difficile parce que d'un gestionnaire à l'autre, un jaune n'aura pas la même incidence. Il y a des gestionnaires qui préfèrent le jaune ou qui sont pas trop frileux, je vais dire, à avoir du jaune. Il y en a d'autres qui peuvent aller vers les teintes d'orange, ça ne les dérange pas non plus. Puis après ça, l'autre difficulté que les organisations ont, c'est de prioriser puis de consolider ces informations-là. Donc, un jaune plus un jaune, ça fait quoi? Ça fait-tu du orange? Ça fait-tu du violet? Ça... On ne sait pas trop. Puis, après ça, ben, est-ce que tu priorises le premier risque, le premier scénario de risque que tu as documenté qui était jaune ou le second, entre les deux, lequel qui est le plus important, qui est le plus critique, etc. Donc, cette ambiguïté-là, malheureusement, fait en sorte que les décisions sont plus difficiles à prendre et que ça amène souvent les organisations à, malheureusement, être influencées soit par la politique de l'organisation ou par le pouvoir des intervenants.
Oui, c'est dans le sens, ça vient au sens où c'est d'ailleurs juste du feeling dans lequel on investit en risque. Puis je trouve que c'est pas, personnellement, pas une approche qui est nécessairement très positive de dépenser de l'argent sur des émotions en risque, quand on pourrait mieux optimiser les dépenses monétaires, parce que ça coûte quand même très cher, le cyber, puis d'arriver à une couverture optimale, c'est pas simple. Puis de là aussi, elle découle l'autre volet, puis je trouve ça très intéressant, tu as vraiment parlé quand même un bon bout de temps. Le problème du vocabulaire et de la communication, parce que l'usage, puis je l'ai rencontré énormément dans ma carrière aussi, le vocabulaire de risque, il est malheureusement confondu avec le vocabulaire qu'on a dans le quotidien, qui est aucun lien avec comment on fait de l'analyse de risque, même en dehors de FAIRST, on va juste de l'analyse de heatmap, même encore là, ça ne veut pas dire la même chose que ce qu'on utilise dans le quotidien. Donc, faire un effort assez substantiel, justement, à clarifier le vocabulaire. Puis, peux-tu donner quelques exemples, justement, très pertinents de cette clarification-là?
Oui, ben en fait, il définit d'abord qu'est-ce qu'un risque pour la méthodologie. Donc, c'est quoi les composantes d'un scénario de risque que tu vas avoir de besoin pour pouvoir faire ton calcul, finalement. Donc, il y a les actifs. Donc, souvent, on va parler de la portée là, du scénario de risque. Fait que tu as tes actifs, tu as l'effet. Là, donc, l'effet, souvent, on va penser au triangle confidentialité, intégrité, disponibilité. Et finalement, tes acteurs. Donc, est-ce que c'est un employé interne? Est-ce que c'est un hacker externe, etc.? C'est ça les composantes là, qui sont identifiées. Puis dans le livre, c'est bien documenté, puis c'est bien ça fait bien réfléchir, je dirais. Un autre exemple que j'amènerais, c'est le terme vulnérabilité qui est utilisé parmi les facteurs, qui lui est super important parce que le mot vulnérabilité, surtout quand on parle à des gens qui sont très sécurité opérationnelle, ils pensent à des vulnérabilités applicatives dans leur quotidien. Là. T'sais, j'ai un bug dans un outil, là, puis je peux me faire attaquer. Là. Donc, dans la méthodologie FAIR, le terme vulnérabilité n'a pas la même signification du tout. Là. Donc, c'est les deux exemples là, qui me viennent en tête.
C'est intéressant que tu amènes ces exemples-là parce que justement, puis là, on va en parler dans une autre occasion aussi, le message ou la perception de risque n'est pas la même parce que quand on va parler aux gens de terrain, c'est très binaire le risque, comment c'est perçu. Donc, on est vulnérable ou on n'est pas vulnérable, il n'y a pas de nuance. Et quand on arrive à la très haute gestion, c'est exactement la même chose. Puis d'ailleurs, la tolérance au risque à la très haute gestion est excessivement faible. Donc, on espère arriver à un risque zéro, ce qui est un peu farfelu par ailleurs. Fait que c'est tout à fait intéressant d'aborder ces éléments-là. Et ce qui amène aussi, puis je dis, on va revenir au vocabulaire, mais je l'aime bien, c'est le possible et probable. Parce qu'en termes de défaut de langage ou d'abus de langage, on confond les deux et il y a une nuance tellement grande entre les deux que c'est important de justement distinguer ces éléments-là.
Effectivement, oui. L'auteur du livre mentionne bien que pratiquement tout est possible, mais que c'est pas tout qui est probable. Donc, je pense qu'un des exemples qu'il donne dans le livre, c'est de dire est-ce que c'est possible qu'un chien se retrouve sur l'étage de notre entreprise qui est située au centre-ville? C'est possible qu'il y ait un chien qui réussisse à passer à travers toutes les gates de sécurité, à ouvrir les portes, à faufiler un peu partout, puis à arriver sur l'étage. C'est possible. Peut-être que c'est un chien que quelqu'un a amené à l'intérieur. Peu importe c'est quoi la raison qui fait que ce chien-là est sur l'étage. C'est possible qu'un chien se retrouve sur l'étage. Mais est-ce que c'est probable puis qu'on va analyser ce scénario de risque-là? La réponse, selon moi, c'est non.
Oui, puis c'est ça. Puis c'est là c'est important, justement, la différence, parce que c'est un abus de langage, en quelque sorte, que de se confondre les deux. Puis ça devient très important d'utiliser les bons mots pour exprimer les bonnes choses, parce qu'en analyse de risque, ça vient influencer énormément ce qu'on fait. Puis ce que j'aime beaucoup de la méthodologie de FAIR, même si on peut ne pas être d'accord avec comment il définit ses mots, son vocabulaire, ça a au moins le mérite d'être clair et que d'assurer qu'on a tous la même compréhension.
Exact. Puis en fait, moi, je vais même aller plus loin que ça. La personne qui s'occupe de faire des ateliers de risque pourrait, en théorie, sans avoir de besoin de donner un cours complet sur FAIR à tous les intervenants. Selon moi, c'est la responsabilité de l'intervenant ou de l'analyste là, en risque de contrôler la discussion puis le débat afin de centrer puis la discussion, puis la prise d'arguments, toute l'analyse, dans le fond, de la... Il faut faire attention, là, je ne dis pas ici qu'il faut que l'analyste, dans le fond, amène un biais là, à l'analyse. Là, c'est pas ça. Il faut que les intervenants aient, je vais dire, la libre expression. Là, donc, il faut qu'ils puissent s'exprimer librement sur tout. Mais c'est de dire, OK, si on s'égare du sujet, du scénario, de simplement recadrer, ramener les intervenants en disant, attention, cette information-là par rapport au scénario qu'on est en train d'analyser n'est pas pertinente, n'est pas valide, etc., etc. Ou même de dire, ben, l'information qu'on a sous les mains nous donne, je vais dire, mettons, barème ou critère, puis de se concentrer sur ça. Donc, c'est normal qu'il y ait des ambiguïtés, c'est normal qu'il y ait des désaccords, puis c'est d'accepter ces désaccords-là et non pas d'essayer de les corriger. Donc, c'est un point que j'avais discuté durant ma présentation, c'est le concept de calibration dans la méthodologie FAIR est là justement pour permettre ces désaccords-là et de malgré tout arriver à un résultat qui est pertinent.
Absolument, puis c'est ça, cette espèce de goût de vouloir rassembler, ramener tout le monde sur la même opinion est un peu justement un peu défait sur ces affaires-là, ce qui permet justement d'avoir des opinions divergentes. Et ça amène à l'autre volet très intéressant aussi de la méthodologie, et ce que je vois plus, en tout cas dans mon expérience, les gens qui n'adhèrent pas à cette méthodologie, expliquer son raisonnement. Donc, la méthodologie exige un certain nombre d'explications pour qu'on est arrivé à cette décision-là. Et donc, on va consigner nécessairement les opinions divergentes, justement, pour qu'on ait quand même une trace de tout ce qui s'est passé. Puis, j'ai rarement vu des méthodologies qui vont jusqu'à ce niveau-là. Et personnellement, je trouve ça très important, là, ce volet-là.
Oui, effectivement, c'est un bon point que tu amènes. C'est la méthodologie, elle l'exige pas, là, c'est dans le sens qu'on peut arriver à faire un calcul sans avoir cette information-là. Par contre, lorsqu'on va vouloir amener quand on va vouloir présenter notre analyse de risque, les résultats, que ce soit à un conseil d'administration, que ce soit à des exécutifs ou des gestionnaires, Si on n'a pas les détails, si on n'a pas l'information, ben on risque de ne pas être capable de répondre aux questions, puis de donner le même contexte. Puis là, à ce moment-là, ça va être les exécutifs ou les hauts dirigeants qui vont nous dire, ben finalement ton analyse elle couvre pas ce dont on avait besoin, ou en tout cas elle nous permet pas de répondre aux questions auxquelles on a aujourd'hui à répondre. Fait que c'est le rationnel autour de chacun des raisonnements, de chacune des valeurs qui sont amenées dans l'équation de la méthodologie, font en sorte qu'on peut, qu'un analyste ou n'importe qui a besoin d'aller présenter son argumentaire soit en mesure de répondre aux questions. C'est tout simplement.
Oui, absolument. Puis très intéressant. Là, je backtrack un peu parce que j'ai comme par rapport à ta conférence, puis par rapport à la nature du sujet, ouais. Puis les facettes, parce que j'ai un volet, moi, je trouve très intéressant, puis je trouve que la plupart des gens ont de la misère. Un, le volet de présomption, parce que tu avais utilisé l'exemple du pneu usé. Et ouais. Celui-là, tout dépendant comment on le met dans le contexte, ça a une conséquence. Hein, donc, on fait des présomptions. Puis ensuite, tout ouais. Le fait qu'on va prendre juste un axe d'analyse, on va dire, OK, puis ça va avec le pneu aussi. Ben, si le pneu tombe par terre ou si je conduis, puis là arrête la réflexion quand le fait, on ne prend pas l'élément dans son ensemble.
Exact. Exact. Donc, les présomptions, comme tu dis, là, où quand on assume des éléments dans notre analyse, ben ça vient biaiser notre analyse, en fait. Puis c'est là qu'on peut se faire challenger. Je vais donner un exemple un peu en lien avec ce que j'avais présenté, mais c'est que si on parle d'une fuite de données, ben on n'a pas la même probabilité d'une fuite de données par une source externe que par une source interne. Donc, c'est probablement pas le même volume non plus. Donc, est-ce qu'on veut analyser cette situation-là dans la même analyse ou dans le même scénario? La réponse, c'est non. Puis, même que l'auteur de la méthodologie le dit bien, là, que c'est pas recommandé d'analyser un scénario avec multiples acteurs, avec des contextes différents. Puis en fait, dans ma présentation, j'avais bien mentionné que pour chaque facteur ou chaque variable du calcul, là, de la méthodologie, de toujours répéter dans la question, hein, parce que pour arriver à des valeurs pour chacun des facteurs, il faut se poser des questions. Tu sais, quelle est la probabilité que quelque chose se produise? Combien j'ai eu d'incidents ou de failles ou de tel événement dans la dernière année, etc., etc. Donc, à chaque fois qu'on se pose la question, l'auteur recommande encore une fois de répéter le scénario pour s'assurer que nos intervenants sont vraiment centrés, cadrés sur le scénario qu'on est en train d'analyser, pour ne pas le perdre de vue. Parce que trop souvent, dans les analyses de risque, on finit par, dans les discussions, là, il y a des gens qui vont finir, c'est pas par méchanceté ou quoi que ce soit, là, c'est, je pense, c'est la nature humaine, on va finir par, ah ouais, mais il est arrivé telle affaire à un moment donné, puis là, on s'en prend une tangente qui n'est pas reliée au scénario qu'on est en train d'évaluer. Donc, ça, je pense que c'est un des critères bien importants ou en tout cas un des trucs de l'auteur pour s'assurer qu'on développe pas ou qu'on n'assume pas des informations dans notre analyse.
Oui, puis de toute façon, pour tous ceux qui sont habitués de vivre dans des rencontres dans des grandes corporations, on va comprendre que ça prend une poignée de fer pour mener une rencontre, donc ça prend une poignée de fer pour assurer que l'analyse de risque, ça n'aille pas dans des directions qui sont non voulues. Fait que c'est tout à fait, les mêmes astuces peuvent être utilisées dans les deux circonstances. Dernier point.
J'irais même un peu plus loin, excuse-moi de t'interrompre, en disant la personne qui chapeaute l'analyse, en réalité, elle devrait arriver à l'entrevue ou à l'atelier de risque. Elle devrait arriver avec son analyse quasiment préfaite, dans le sens qu'on devrait déjà avoir identifié premièrement, c'est qui qu'on va inviter à cette rencontre-là, là, c'est qui peut nous donner les informations pertinentes. Puis on n'a pas besoin de, 50 points d'information. Là. Il y a des gens qui se perdent dans le dédale, puis qui vont dire, j'ai telle équipe qui peut me donner telle donnée, j'ai telle autre équipe qui peut me donner telle autre donnée, telle autre. Puis là, on se retrouve avec 10 personnes, 10 systèmes qui peuvent nous donner des informations différentes. C'est le fun d'avoir des données, mais ce que la méthodologie démontre, c'est que avec une quantité quand même pas si nombreuse d'informations, on peut se retrouver avec un bon estimé quantifiable là, de notre risque. OK? Puis, je n'ai pas eu le temps de le faire durant la présentation, mais quand j'ai eu ma formation ou l'espèce d'atelier sur la certification FAIR, on avait fait des ateliers des exercices dans le fond de calibration qui n'ont rien à voir avec la technologie, mais qui réussissait à nous démontrer. On ne connaissait pas le sujet, mais à la fin, on arrivait à une réponse qui était dans la braquette et d'arriver à un estimé qui était juste. Donc, je me souviens d'un exemple où on faisait une évaluation là, d'un dans le fond, il fallait essayer de déterminer la quantité de décès par attaque de requins. Tu sais. Puis, bon, il n'y a personne autour de la table qui était, un expert en biologie ou marine ou peu importe. Et simplement, en ayant des échanges, des débats entre nous, on a réussi à dire, on pense qu'il y en a plus, il n'y en a pas zéro, Mais on se dit, il n'y en a pas non plus un million. S'il y en avait un million, on en parlerait beaucoup plus aux nouvelles que les requins dans l'océan, c'est dangereux, etc., etc. Donc, on a fini par calibrer notre estimé et arriver à un chiffre, ou je devrais dire une échelle, qui était exactement dans la braquette. On peut googler aujourd'hui combien il y a de morts par attaque de requin. Puis on a les données statistiques, là, tu sais, mais fait qu'on avait fait des exercices comme ça. Puis c'est la même chose avec les risques technologiques, en fait. On n'a pas besoin d'avoir toutes les données pour arriver à un estimé valable.
Oui, c'est le volet de calibration de la méthodologie que je trouve très intéressant, justement, parce que ça nous amène, sans être des experts, nécessairement dans un domaine très spécifique, de réussir à évaluer un risque, évaluer des données qui, malgré tout, ont un résultat qui est quand même proche. Puis justement, tu parlais de fourchette d'éléments. Puis c'est là, justement, un des dangers que la méthode dit, c'est de ne pas arriver avec un chiffre exact, c'est d'arriver avec toujours des fourchettes de choses, parce que ça sert à rien, ça c'est pas utile à la méthodologie et à l'évaluation du risque d'arriver avec un chiffre trop précis, parce que c'est pas ça le but. On est toujours dans des probabilités, toujours dans des échelles, dans des fourchettes de risque.
Exact. Puis on a toujours, encore une fois, quand on parle de risque, on a tendance à toujours penser au pire. Donc, on a souvent tendance à exagérer la perte.
Oui, bien, l'humain, fondamentalement, en part de la perte, fait que c'est sûr qu'on va la rendre plus démesurée. Puis justement, il faut réussir à être capable de façon d'évacuer le subjectif de ce qu'on fait, tout en sachant qu'on ne peut pas l'évacuer au complet de toute façon.
Exactement. Moi, je me souviens, puis en fait, il y a un article sur le site du FAIR Institute qui a été publié dernièrement, peut-être un mot ou deux, là, qui disait, ben, l'analyste ou la personne disait, ben, dans son article, elle a utilisé la méthodologie FAIR pour essayer de... Puis là, je vais essayer de peser mes mots ici, là. Il y avait un auditeur interne qui avait soumis une observation à l'effet qu'il y avait un grand risque dans l'organisation sur un élément, là, je me souviens plus lequel, mais c'était pas pertinent. Et dans le fond, le professionnel en risque a tout simplement utilisé la méthodologie FAIR pour dire à l'auditeur, ben OK, je t'entends, oui, c'est vrai que c'est un risque, mais on ne le considère pas élevé pour telle raison, puis voici notre évaluation, comment nous on le voit, et selon notre méthodologie, voici comment qu'on veut l'adresser et pourquoi. Et moi, j'ai eu à l'époque... J'ai eu une expérience similaire avec un auditeur interne qui nous disait « Votre centre de données il est situé à un endroit pas très, très sécuritaire, puis il y a des risques que tel événement se produise. » Puis là, on était comme « Ah, OK, ouais, c'est encore là, c'est possible, mais est-ce que c'est probable? » Donc, à l'époque, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé chercher des statistiques d'associations internationales. Dans notre cas, c'était sur des accidents là, de moyens de transport, je ne nommerai pas lesquels. Mais puis on avait la statistique, c'était qu'il y avait à travers le monde, il y avait un accident par, je vais dire, localité par période de 40 ans. Ça, c'était une moyenne. Fait qu'évidemment, je vais dire, mettons, au Québec, au Canada, peut-être qu'on n'a pas autant d'accidents parce que nos standards sont plus élevés, etc. Là. Donc, tu sais, il faut relativiser aussi les statistiques qu'on reçoit. Puis moi, ben, en fait, à l'époque, j'avais dit à l'auditeur, ben, je dis, parce que là, si tu es en train de me dire qu'il faut que je déménage mon centre de données, parce que si la réponse, c'est oui, ben, déménager un centre de données, là, c'est des années, des fois, de travail. Là. Fait que c'est un an, deux ans de travail à déménager tout le matériel physiquement, mais c'est du temps, c'est des efforts pour les équipes TI, développement, etc. Fait que Fait qu'on parle des fois de dizaines, voire des centaines de millions de dollars. Fait qu'est-ce que, est-ce que le risque qu'il avait identifié était vraiment à la hauteur de l'investissement que ça prenait pour déplacer un centre de données? Tu sais, c'est un peu ça que l'article mentionne. C'était de dire, ben, on a repris l'observation, on l'a analysé avec notre méthodologie, avec les arguments, le rationnel, pour dire à l'auditeur, ben, oui, tu as raison, il y a un risque, mais on ne l'évalue pas avec un heat map, on l'évalue avec des données, puis de manière quantitative, monétaire, on est capable de se dire, ben, pour régler le problème que tu as identifié, on est prêt à investir tant d'argent.
Ah, absolument. De toute façon, j'utilise des arguments similaires pour débouter certaines analyses, je dirais, un peu rapides qui ont été faites, justement, qui arrivent avec des recommandations extrêmes pour des choses qui, des fois, ne nécessitent pas des mesures aussi extrêmes que ça. Bref, on va conclure là-dessus. Je tiens à te remercier pour la conférence, pour te donner peut-être l'expérience de justement de réenregistrer après et ta très grande générosité de temps d'avoir tout fait ça. Puis je te laisse le mot de la fin.
Ben écoute, c'est moi qui te remercie de l'invitation. Je suis vraiment passionné par la méthodologie PAIR, puis j'ai vraiment, je suis un peu comme toi là, je suis biaisé dans ma présentation du sujet, mais je pense vraiment que c'est l'avenir de la gestion des risques technologiques, c'est ça. Donc je prêche pour que les gens de la communauté, je pourrais dire francophone, l'utilisent de plus en plus. Donc merci.